C'est une immense région de savane riche en biodiversité et qui occupe un quart du Brésil. Le Cerrado est victime d'un déboisement de plus en plus intense. Comment expliquer cette situation alors qu'en Amazonie, au contraire, le déboisement a plutôt tendance à diminuer? C'est notre dossier américain. Deux dirigeants d'opposition arrêtés au Venezuela. L'opposition dénonce une intensification de la vague répressive dans le pays à l'approche de la présidentielle. On en parle dans la revue de presse. On rejoindra également Franz Duval en Haïti pour parler des dernières évolutions au sujet du conseil présidentiel de transition qui doit prendre les rênes du pays. Le parti Petite Dessalines de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles a finalement désigné un représentant. Aux États-Unis, des condamnations très lourdes à l'encontre de policiers qui ont commis des actes de torture sur deux hommes noirs. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer avec Serge Massot. Serge, en Guadeloupe, une attaque au couteau a eu lieu hier dans les rues de Pointe-à-Pitre.
Oui, et quatre personnes ont été blessées dans le dos. Une femme d'origine haïtienne sans domicile fixe a été placée en garde à vue.
A tout à l'heure, Serge.
RFI, o mundo mais perto de você.
Et comme promis, on démarre ce journal au Brésil. Alors que la déforestation en Amazonie a nettement baissé en intensité ces dernières années, l'inquiétude se porte désormais plus particulièrement vers une autre région du pays, elle aussi riche en biodiversité, et victime d'un déboisement accru, le Cerrado. Cette immense savane arborée, située au sud-est de la forêt amazonienne, occupe un quart du Brésil et l'agro-business y progresse dangereusement. Bonjour Lucille Gimbert.
Bonjour.
Une délégation de peuples autochtones du Cerrado et des ONG brésiliennes sont d'ailleurs en ce moment à Bruxelles avec deux objectifs principaux. D'abord, alerter sur la situation au Cerrado et tenter de le faire intégrer à la loi européenne contre la déforestation importée.
Oui, parce qu'à partir de début 2025, les entreprises qui font entrer des marchandises dans l'Union européenne devront vérifier qu'elles n'ont pas contribué ces marchandises à la déforestation. Cela concerne la viande, le cacao, le café, l'huile de palme, le bois, le soja et tous leurs dérivés. Pour le moment, la Commission européenne ne considère que les forêts avec des arbres de plus de 5 mètres, mais elle s'était engagée à étudier la possibilité d'inclure par la suite les écosystèmes boisés autres que les forêts, par exemple peut-être le Cerrado. Dans ce Cerrado, justement, les grands exploitants agricoles déforestent surtout pour planter du soja. Ce soja est ensuite exporté vers l'Europe, où il sert notamment à nourrir les poulets et les porcs d'élevage. Et cette déforestation provoque les mêmes ravages environnementaux qu'en Amazonie. C'est ce que dénonce Eliane Xunacalo, leader autochtone dans l'état du Mato Grosso.
Nous, les communautés autochtones et traditionnelles, nous sommes encerclés par les fermes de soja. Cela a des conséquences négatives sur notre accès à l'eau, car le niveau des nappes baisse à cause des plantations de soja. Les pesticides qu'ils utilisent polluent nos rivières, polluent les sols, provoquent des maladies dans les villages alentours et nuisent même à notre agriculture.
Et ce déboisement s'accompagne là aussi de violences contre les populations locales.
Et Lucille, pourquoi la lutte contre la déforestation progresse en Amazonie et pas au Cerrado?
Eh bien, il y a d'abord un statut de terre, une question de statut de terre. En Amazonie, les terres sont pour la plupart publiques. Elles sont soit protégées, soit reconnues comme territoire des peuples autochtones, soit elles appartiennent à l'État. Du coup, le gouvernement fédéral peut sanctionner les cas de déforestation illégale sur ces zones. Et les contrôles ont repris avec force depuis le retour au pouvoir de Lula. Au Cerrado, au contraire, la déforestation a surtout lieu sur des terres privées. Et dans ces cas-là, les organes de contrôle, eh bien, ils sont régionaux et ils sont plus sensibles aux pressions de l'agrobusiness et à la corruption. Résultat, les ONG comme Mighty Earth, qui traquent le déboisement par satellite et sur le terrain, constatent un report de la déforestation de l'Amazonie vers le Cerrado. Écoutez Mariana Ganero, elle est conseillère au sein de Mighty Earth.
Plein des agriculteurs qui étaient en Amazonie, d'abord, ils ont moins d'incitation à déforester là-bas. Ils trouvent de l'espace pour les faire au Cerrado.
Et pour l'écologue brésilienne Isabelle Figueiredo, il y a carrément un accord tacite entre le gouvernement et l'agro-industrie qui serait, en somme, ok, on arrête en Amazonie, mais vous nous laissez le Cerrado.
Il faut dire aussi que la pression internationale est centrée sur l'Amazonie.
Oui, et pourtant, le Cerrado est indispensable à la forêt amazonienne, mais aussi à d'autres régions brésiliennes, comme le Pantanal, une gigantesque zone de prairies et de savanes humides à l'ouest du pays. Écoutez à nouveau l'écologue Isabelle Figueiredo.
Comme le Cerrado est situé plus haut, il a le rôle très important de recevoir les pluies. Grâce aux propriétés de son sol et à son système de racines profondes, l'eau s'infiltre très bas dans les nappes. Cette eau se déverse ensuite dans les rivières qui partent dans toutes les directions. C'est comme ça que le Cerrado aide toutes les régions du Brésil.
Et c'est pour ça qu'on appelle le Cerrado aussi une forêt renversée avec toutes ses racines profondes. Cela permet aussi au Cerrado de stocker beaucoup de carbone dans le sol et il est donc un allié dans notre lutte contre le réchauffement climatique.
Merci beaucoup Lucille Gimbert. La revue de presse à présent avec Christophe Pagé. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et le Venezuela d'abord, où deux dirigeants du parti d'opposition, Vente Venezuela, ont été arrêtés.
Oui, Vente Venezuela, le parti de Corina Machado, l'opposante, qui a été déclarée inéligible par la justice du pays. La présidentielle est prévue pour le 28 juillet. Henry Alviales et Dignoa Hernández, coordinateur national et secrétaire politique national du parti, ont été arrêtés, écrit le National, pour deux supposées actions déstabilisatrices, un supposé lien avec des plans violents pour forcer l'inscription de la candidature de Machado. Des arrestations accompagnées d'attaques verbales au plus haut niveau visant, sans la nommer, Corina Machado. Le président Nicolas Maduro a affirmé ce mercredi que les Vénézuéliens ne veulent pas que le prochain dirigeant du Venezuela soit une marionnette d'Alvaro Uribe, le président colombien, et de l'oligarchie colombienne, rapporte El Palio de Quito. Pendant que le président du Parti socialiste du Venezuela, Diosdado Cabello, affirmait que Corina Machado trompe ses partisans en les baratinant.
Et de son côté, l'opposition vénézuélienne condamne ces arrestations.
Sur les réseaux sociaux, écrit Efecto Cocuyo, les dirigeants de l'opposition ont dénoncé une intensification de la vague répressive dans le pays à l'approche de la présidentielle. Et ils affirment que le gouvernement manœuvre pour écarter l'opposition du processus électoral, souligne Tal Cual. Le parti Voluntad Popular note que cette attaque se produit quelques heures à peine après que le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé les mesures prises par le régime chaviste pour restreindre l'espace civique et démocratique au Venezuela. Cela confirme ce que la communauté internationale dénonce. De fait, les États-Unis ont eux aussi dénoncé les arrestations arbitraires de ce mercredi, écrit le quotidien, et les mandats d'arrêt qui ont été émis. Car d'autres membres de l'équipe de campagne de Corina Machado sont censés être arrêtés. Efecto Cocuyo en compte 6 et rappelle qu'entre janvier et mars, au moins 8 membres du parti et directeurs de campagne de Vente Venezuela ont été écroués.
Merci Christophe Pagé, vous restez avec nous pour la suite de votre revue de presse dans quelques minutes.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec Franz Duval, le rédacteur en chef du quotidien francophone haïtien Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Victorien.
Et à la une du Nouvelliste, Franz, des changements au sein du Conseil présidentiel de transition, conseil qui doit prendre les rênes du pays après la démission du Premier ministre Ariel Henry.
Tout à fait. Hier, deux coups de théâtre. D'abord, le parti Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles, un ancien sénateur, un ancien candidat à la présidence, qui avait annoncé qu'il n'avait pas l'intention de participer au Conseil présidentiel de transition. Mais coup de théâtre, il a changé d'avis et son parti a désigné un représentant pour ce conseil. Autre coup de théâtre, un regroupement politique proche de l'ancien Premier ministre Claude Joseph, qui avait déjà choisi quelqu'un pour participer au conseil, a changé radicalement son choix. Et c'est Dominique Dupuis, ambassadeur d'Haïti auprès de l'UNESCO, qui a été nommé pour remplacer Mme Montpremier, une ancienne ministre, à ce poste de membre du Conseil de transition. Maintenant, on attend la suite en Haïti. On attend ce que va décider la CARICOM. On attend la composition définitive du Conseil, mais surtout, on attend de connaître les règles du jeu pour savoir comment ce Conseil va pouvoir travailler, trancher, choisir dans les jours à venir.
Franz Duval, la ville de New York donne de la voix pour aider Haïti en faisant pression sur le gouvernement américain.
C'est une toute petite voix, mais c'est une voix qui est apportée en Haïti parce que ça fait longtemps qu'aux États-Unis, il n'y a plus personne qui parle du dossier haïtien, mis à part l'administration américaine elle-même. Mais cette fois, c'était le maire de New York, c'était le révérend Al Chapman, un activiste noir américain qui a l'habitude d'intervenir sur le dossier haïtien. Eh bien, il ne s'était pas fait entendre depuis des mois, pour ne pas dire des années. Eh bien, hier, ils ont pris la parole à la mairie de New York pour demander aux autorités américaines de mettre plus de moyens sur la crise haïtienne, de laisser en paix les réfugiés haïtiens qui essaient d'arriver aux États-Unis et surtout d'essayer de stopper les trafics d'armes vers Haïti parce qu'en réalité, s'il y a beaucoup de morts par balle en Haïti, s'il y a beaucoup d'armes qui circulent en Haïti, tout provient de la Floride, tout provient des États-Unis. Et cette demande est tombée à point nommé.
Et pendant ce temps, France, la ville de Pétionville, dans la grande région métropolitaine de Port-au-Prince, est attaquée par les gangs et ça dure depuis lundi maintenant.
Depuis lundi, Pétionville, qui était la dernière ville de la grande région métropolitaine de Port-au-Prince, qui était encore dans une certaine normalité, eh bien, a été attaquée dès l'aube par une centaine d'hommes armés qui ont débarqué dans un quartier, celui de la Boule. Ils ont fait des exactions, ils ont pillé des maisons, ils ont tiré à tout bout de champ. Cela a perturbé toute la vie pour lundi. Mardi, cela a repris encore. Très tôt dans la matinée, on a recommencé à tirer dans la commune de Pétionville. Et hier après-midi, mercredi, il y a même eu des chasses à l'homme. La population s'est révoltée, des bandits ont été lynchés. Et la police aussi a fait des interventions. La police qu'on n'entendait pas vraiment depuis quelques temps, mais la police a pu faire des interventions pour contrecarrer l'action des bandits qui essayaient d'installer des chefs de gang dans certains coins de Pétionville. Et le calme est relatif ce matin. Il n'y a pas encore de tir. Et la population essaie de reprendre ses activités pour la première fois depuis le début de cette semaine.
Merci beaucoup, Franz Duval. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien francophone haïtien Le Nouvelliste. Haïti, toujours Christophe, avec un document américain sur la future force multinationale attendue dans le pays.
Oui, le site d'information en ligne Politico s'est procuré un document de 33 pages que le département d'État américain a fait passer la semaine dernière à plusieurs députés, donnant des détails sur la manière dont la force multinationale pourrait opérer en Haïti. Le document serait d'ailleurs lui-même, selon un responsable, le fruit d'un effort multinational. Politico a joint 5 personnes qui ont eu le document entre les mains et qui le trouvent décevant. Selon un attaché parlementaire républicain, il ne répondrait pas aux questions les plus élémentaires que se posent les parlementaires. Comment fonctionnerait le fonds des Nations Unies qui doit rembourser le Kenya, qui doit prendre la tête de cette force ? Comment ladite force aiderait la police locale à combattre les gangs ? Et combien de temps resterait-elle au maximum en Haïti ? Selon Politico, ce mécontentement signifie que le plan a peu de chances de débloquer les 40 millions de dollars prévus pour financer la force. Les 40 millions au Parlement. Et ces 40 millions que les Républicains bloquent depuis le mois de décembre, car ils demandent encore une fois plus de détails à l'administration Biden sur son plan censé assurer le succès de la mission kényane.
8h22 à Quito, l'Équateur et la Gambie démantèlent un réseau de trafiquants de drogue.
Gran Fénix Dieci Ocho, c'est le nom de l'opération conjointe menée mercredi matin par la police nationale équatorienne et l'agence de lutte contre la drogue gambienne, écrit Vistaso. Opération menée dans les provinces de Guayas, Manabi et Los Rios. 12 personnes, 9 équatoriens, 2 gambiens et 1 colombien, ont été arrêtés. La drogue venait du département de Nariño en Colombie et était ensuite envoyée dans des containers jusqu'au port de Banjul en Gambie, d'où elle était ensuite distribuée en Afrique et en Europe. Selon l'Universo, qui précise que l'enquête a duré 3 ans, la drogue était dissimulée dans des paquets de sel et des boîtes de conserve.
Et au Pérou, le Parlement ne comptait qu'une chambre depuis 30 ans, Christophe. Dorénavant, il va à nouveau en compter deux.
Oui, avec le retour du Sénat. Le gouvernement péruvien promulgue aujourd'hui la réforme constitutionnelle approuvée par le Congrès le 6 mars, écrit El Comercio. Le changement sera effectif en juillet 2026 et le prochain Parlement comptera 130 députés et 60 sénateurs, élus pour 5 ans, précise Diario Correo. Pourquoi ce changement, voulu par la présidente Dina Boluarte ? Pour permettre une plus grande réflexion sur l'approbation des lois et le contrôle politique. Les opposants estiment que cette décision n'aurait pas dû être prise par un congrès très impopulaire. 86% des Péruviens interrogés rejettent l'actuel congrès, écrit El Comercio.
Direction les États-Unis à présent, avec ces policiers condamnés très lourdement par la justice. Des policiers qui ont commis des actes de torture contre 2 hommes noirs. Ils travaillaient dans l'État du Mississippi, dans le sud du pays, Guillaume Nodin.
Ils se surnommaient eux-mêmes le Goon Squad, qui pourrait se traduire par la Brigade des Voyous. Ils étaient 6 agents du shérif du comté de Rankin, près de Jackson, la capitale du Mississippi, un état où le racisme est historiquement très important. En janvier 2023, ils entrent sans mandat dans une maison après un appel leur indiquant que 2 hommes noirs étaient en compagnie d'une femme blanche. Les 2 Afro-Américains sont rapidement victimes d'insultes raciales, frappés, menottés, dénudés, et leurs visages sont aspergés de différents liquides avant d'être forcés à se doucher ensemble pour effacer les traces. Les policiers utilisent aussi à de multiples reprises des tasers pour électrocuter les victimes. Une arme de service est utilisée 2 fois, dont une fois dans la bouche de l'un des hommes qui s'en tirera avec une fracture de la mâchoire et la langue lacérée. Les 2 hommes seront même agressés sexuellement avec un sextoy ou tout simplement violés sans accessoires par le policier qui écope de 40 ans de prison. 3 autres condamnations tournent autour de 20 ans et 2 sont encore à venir ce jeudi. Tous les 6 sont plaidés coupables il y a plusieurs semaines, espérant sans doute réduire leur peine annoncée dans un tribunal placé placée sous haute surveillance compte tenu de la gravité des faits. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Et puis on reste aux États-Unis sur un tout autre sujet, Christophe. L'armée fantôme va recevoir la médaille d'or du Congrès ce jeudi.
Oui, la Ghost Army, l'armée fantôme qui a trompé Hitler, écrit le Washington Post. Leur mission n'était pas de tuer des nazis, mais de se produire devant eux, armés d'effets sonores, de costumes, de scénarios et d'accessoires, comme des tanks gonflables. Bref, des moyens scéniques dignes de Hollywood pour tromper l'armée allemande sur l'emplacement et la taille des forces alliées. Pas moins de 1100 ingénieurs du son, acteurs, décorateurs de théâtre se sont fait passer pour une force de combat plus de 30 fois supérieure à sa taille réelle. Opérant au plus près des lignes de front après le débarquement, ils auraient ainsi sauvé la vie de dizaines de milliers de soldats américains en attirant ailleurs les nazis. Cette armée fantôme, c'est-à-dire le 23e Headquarters Special Troops et la 3133e Signal Service Company Special, vont donc recevoir aujourd'hui au Capitole la médaille d'or du Congrès, sa plus haute récompense. 3 des 7 survivants connus de l'armée fantôme seront présents.
La revue de presse de Christophe Paget. Merci beaucoup, Christophe. Dans un instant, le journal des Outre-mer, mais d'abord un mot de votre émission De Vive Voix avec Pascal Paradou. Le livre Le Consentement de Vanessa Springora a été adapté au théâtre. Et parmi les comédiens qui incarnent l'œuvre sur scène, Ludivine Sagné, elle sera l'invitée de Pascal Paradou dans quelques minutes.
Le journal de l'Outre-mer.
L'actualité des Outre-mer, rebonjour Serge Massot.
Bonjour.
En Guadeloupe, 4 personnes blessées lors d'une attaque au couteau.
Oui, les faits se sont produits hier matin à Pointe-à-Pitre. 4 femmes ont été blessées au dos, dont 2 grièvement. L'auteur présumé a été arrêté. Il s'agit d'une femme sans domicile fixe, âgée d'une 30aine d'années et originaire d'Haïti. Écoutez le récit de Christophe Gava. Il est le directeur territorial de la police nationale en Guadeloupe.
Les effectifs intervenants de la CDI ont vu une dame qui se baladait avec une bouteille de verre à la main et un couteau. Il y a eu une tentative d'interpellation qui n'a pas abouti parce que la dame s'est débattue violemment et c'est toujours très compliqué sur la voie publique d'interpeller une personne armée d'un couteau. Et cette dame a pris la fuite en courant, les collègues l'ont coursée et en courant, cette dame-là a malheureusement porté des coups de couteau à d'autres victimes, essentiellement des femmes. Les collègues se sont arrêtés pour porter secours immédiatement aux personnes qui venaient d'être blessées en donnant l'alerte pour que 2 autres effectifs puissent intervenir. Cette dame était déjà connue des services de police. Elle ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales. Ce qui est sûr, c'est qu'elle tenait des propos incohérents au moment où elle a été interpellée.
Des propos recueillis par Eric Stimfling de Guadeloupe la Première. En Guyane, le père Patrice, ancien curé de la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, comparaît depuis ce matin devant la cour criminelle de Cayenne. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle par personne ayant autorité. Olivier Damone de Guyane la Première.
L'affaire débute en août 2018. Une jeune femme porte plainte dans l'Hexagone. Elle dit avoir été victime d'un prêtre du diocèse de Guyane quand elle avait entre 15 et 22 ans. Les faits présumés se seraient déroulés entre 2006 et 2013 à Rémy-à-Montjoly, Cayenne, Paris, Toulouse et Madrid, la capitale espagnole, lieu des Journées mondiales de la jeunesse en 2011, où s'était rendu un groupe de pèlerins guyanais. Le suspect est le père Patrice François, qui a officié notamment à la cathédrale de Cayenne. En 2020, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, des faits contestés depuis le début par le père Patrice, lui parle d'une relation consentie.
Et puis il a passé 711 jours en captivité dans le Sahel avant d'être libéré le 20 mars 2023. Un an après, Olivier Dubois, journaliste originaire de la Martinique, se porte mieux. Carl Sivat de Martinique la Première l'a rencontré, son témoignage plein d'espoir.
Une journée un peu particulière, évidemment, ça fait un an maintenant. Ça me semble à la fois loin, ma libération, et pourtant c'est gravé dans mon esprit, c'est très proche en même temps. Je crois qu'un an après, je commence à rentrer vraiment dans mes baskets, je crois que ça va beaucoup mieux. J'ai des projets en tête, évidemment, qui vont certainement se concrétiser dans les mois qui viennent. J'ai envie de reprendre mon travail. Et il y a cette idée que la vie aussi, quelque chose d'incroyable quand même. Enfin, j'essaie d'en tirer un message d'espoir, c'est-à-dire que rien n'est jamais vraiment joué, et que si on y croit et que... on est prêt à aller au bout et qu'on a la détermination, ça arrivera. Les nuages dégageront le ciel s'éclaircira. Enfin bon, il faut continuer à y croire et continuer aussi à se battre pour quelque chose qu'on veut.
L'ex-otage Olivier Dubois au micro de Carl Sivat. Bonne journée sur RFI.
Merci beaucoup Serge Massot et merci pour ce journal et pour votre fidélité au journal d'Haïti et des Amériques à la réalisation ce jeudi. Hélène Avril, merci beaucoup Hélène. On revient dès 13h10 temps universel demain dans un instant votre émission De Vive Voix avec Pascal Paradou.